100% de la myopie. Vos yeux, on y voit?
Prenez note qu'à la fin du trait prolongé, il sera exactement midi. Un rappel de la clinique d'optométrie des Îles.
D'une marée à l'autre, vous écoutez CFIM, le son de la mer au 92,7 FM.
Bon midi, mesdames et messieurs, ici François Delisle au micro, et voici vos informations. Le CALAC L'Espoir des Îles s'attaque à l'exploitation sexuelle à travers une campagne de sensibilisation à large déploiement. Avec pour thématique « L'exploitation sexuelle, c'est ça aussi », le projet a pour but d'informer le grand public de cette problématique et de donner les outils appropriés. Grâce à une subvention du programme Prévention et intervention en matière sexuelle des jeunes, l'intervenante Nathalie Rivet se penche sur la question depuis environ un an. Elle explique en quoi consiste l'exploitation sexuelle.
L'exploitation sexuelle, c'est une personne qui profite du corps d'une autre personne sexuellement en vue d'en tirer des avantages. Donc, c'est une agression à caractère sexuel. Ça se manifeste aussi en ligne, l'exploitation sexuelle, sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment lever le voile parce qu'on s'est rendu compte vraiment au CALAX que ça existait, puis ça existait depuis un moment, que le phénomène prenait de l'ampleur. Tomber dans ces pièges-là, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas écrit sur notre visage.
Mm-hmm. Elle ajoute que le projet a aussi pour objectif de réaliser un portrait de la problématique sur le territoire afin d'en déterminer l'ampleur. Si en ville, l'exploitation sexuelle paraît plus évidente, aux îles, elle peut être invisibilisée par le faux sentiment de sécurité qui vient avec la réalité d'un petit milieu, poursuit-elle. Dans tous les cas, les conséquences sur les victimes sont graves.
L'exploitation sexuelle en ville, tu sais, ça se voit. T'sais, on peut voir des personnes sur les trottoirs, on peut voir des motels délabrés. Ici, ça se déploie pas du tout de la même façon. On va plus parler de prostitution de fin de mois, d'échanges sexuels pour avoir un livre. Ça peut être pour se payer des médicaments, de la drogue, de l'alcool. Donc, tu sais, souvent, chez les personnes un peu plus vulnérables, même si ça se déploie pas comme en ville, les conséquences sont aussi dévastatrices. Il y a des conséquences psychologiques, psychique, physique, social, économique.
La démarche du CALAX a déjà mené à 2 jours de formation donnée par des criminologues pour reconnaître les pièges de l'exploitation sexuelle et accompagner les victimes. La campagne de sensibilisation s'est aussi invitée à la Maison des jeunes dans le cadre d'un atelier. Elle s'étend aussi sur Instagram via une page publique et sur des affiches répandues dans plusieurs commerces. Comme le printemps qui fleurit, les initiatives se multiplient sur l'archipel pour célébrer le Jour de la Terre. Au nom du réseau des acteurs en environnement, la municipalité des Îles enjoint les citoyens à faire une collecte de déchets et à partager le fruit de leur récolte sur les réseaux sociaux avec le mot-clic « Clean les Îles ». L'organisme Attention Fragile s'est donné comme mission de participer au nettoyage des plages considérées comme habitat essentiel pour le pluviflore en voie de disparition et invite les insulaires à prendre part au mouvement. Déjà à sa 3e édition, le Centre de récupération réutile se rendra à la polyvalente des Îles pour sensibiliser la communauté étudiante à l'économie circulaire en organisant une cueillette d'objets de seconde main les 23 et 24 avril. L'organisme a aussi mené le défi Éco-Engagé, agissons pour notre planète, en partenariat avec CFIM. De son côté, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles, la Régim, offre des passages gratuits toute la journée. Puis, en soirée, la municipalité propose la projection du documentaire L'Océan vu du cœur, en collaboration avec ce film Cinéma Parallèle, ainsi qu'une séance de gymnastique sensorielle du côté de la salle de l'Étoile du parc de Gros-Cap. Et finalement, l'escouade des Îles a chèrement vendu sa peau au tournoi de la Coupe Chevrolet volley masculin, terminant sur la 3e marche du podium dans la catégorie des moins de 13 ans 2A. Les insulaires avaient pris les devants 2-0 en demi-finale avant de voir leur adversaire inscrire 3 buts dans la 2e moitié du match. L'équipe termine son championnat provincial disputé à Trois-Rivières avec 3 victoires et 2 défaites. Émile Cummings et Charles-Étienne Arsenault ont inscrit 5 points chacun en autant de parties. Chez les moins de 11 ans 2B, l'escouade s'est inclinée en quart de finale après un parcours parfait en ronde préliminaire de 3 victoires et aucune défaite. En avance de 4-2 après deux périodes, les Madelinos ont difficilement pu contenir une poussée de 3 buts des Sieurs de Longueuil en troisième période, ce qui a mis fin à leur tournoi présenté à Grand-Mère. Le capitaine de l'équipe, Éloi Éloquin, termine la compétition au sommet des pointeurs de l'escouade avec 5 points, tandis que Thomas Chiasson, Noah Thériault, Étienne Massé et Anaïs Jonfe suivent avec 4 points chacun. Voilà qui complète votre bulletin d'information locale. Ce midi, à l'émission L'épreuve des faits, on discute des travaux de l'église Saint-Pierre de la Vernière et on discute également de l'herbier développé par le comité ZIP des îles. Mais d'abord, la météo et les manchettes sportives.
Mise à l'eau des cages, une présentation des caisses des Jardins des Îles.
Vous voulez vivre une tradition typiquement madelinienne? Ben venez participer à la fabrication des galettes remises aux pêcheurs lors de la mise des cages à l'eau. On vous attend à la Salicorne mardi le 23 avril à 9h.
Merci à Joël Arsenault, député des Îles de la Madeleine à l'Assemblée nationale du Québec.
Ici Véronique Harvey. Du lundi au jeudi, de 10h à midi, je vous invite à Simplement Véro, où les belles discussions, les petites nouvelles, la bonne humeur et la simplicité sont au rendez-vous. À bientôt!
Prêt pour un défi éco-responsable? RIUtil, en collaboration avec CFIM, vous propose de participer du 14 au 22 avril au défi éco-engagé Agissons pour notre planète. Aujourd'hui, votre défi est de participer à la campagne de collecte de déchets Clean les îles. Rendez-vous sur le Facebook de RIUtil pour découvrir des idées et des alternatives pour que tout le monde puisse y participer. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire et partager vos photos en taguant RIUtil et tenter de gagner jusqu'à $150 en bons d'achat? Ensemble, agissons pour notre planète, car chaque geste compte.
Mini-jacking, spécialisé en levage de bâtiments et réfection de fondations, sera aux îles de la Madeleine en septembre prochain. Si vous avez un projet, profitez de leur présence sur les îles pour avoir un bon prix. Mini-jacking visitera les îles pour études de projet et soumission en mai prochain. Pour information, appelez Alex Lavoie, 418-330-0505 ou visitez minijacking.ca. Vous vous questionnez sur les moyens mis à votre disposition pour accompagner et protéger vos proches, ainsi que les mesures de protection accessibles. Un regroupement de 5 organismes communautaires des îles offrant du soutien aux personnes proches aidantes vous invite à une séance d'information virtuelle sur ce sujet présentée par le curateur public du Québec. Cette réunion aura lieu le mardi 30 avril à 19h à la salle 211 du centre Joe Lebourdais au 330 chemin principal à Capomel. Pour inscription ou information, faites le 418-986-4649.
Peu importe le temps qu'il fait, l'équipe de Proxime Lapierre et Lapierre vous accompagne à tout moment et vous présente les prévisions météo que voici.
À la météo, on nous prévoit aujourd'hui une alternance de soleil et de nuages, 30% de probabilité d'averse tard cet après-midi. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec rafale à 40, devenant du nord-ouest à 40 avec rafale à 60 en après-midi. Maximum de 6 degrés, température à la baisse pour atteindre plus 2 au cours de l'après-midi. Ce soir et cette nuit, on nous prévoit un temps dégagé, des vents d'ouest de 40 km/h avec rafale à 60, diminuant à 20 avec rafale à 40 vers minuit. Minimum de moins 2, refroidissement éolien de moins 10 ce soir. Demain, on nous prévoit un temps ensoleillé, des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant du sud à 30 avec rafale à 50 en mi-journée, maximum de 7 degrés. Mercredi, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages, maximum de plus 5. Jeudi, on nous prévoit un temps nuageux avec 60% de probabilité d'averse de pluie ou de neige, du vent et un maximum de plus 3. Vendredi, alternance de soleil et de nuages et un maximum de plus 4. Et samedi, pour le moment, pour débuter la fin de semaine, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages, un maximum de 8 degrés. En ce moment, il fait 5 degrés sur les îles de la Madeleine selon les conditions enregistrées à l'aéroport d'Avromaison, avec des vents d'ouest d'une 20 km/h.
Chez Chez Proxime, La Pierre et la Pierre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous simplifier la vie et pour profiter de celle-ci. Notre équipe de plus de 60 employés est présente pour vous jour après jour afin que votre expérience en magasin soit des plus agréables. Ils vous accueillent avec le sourire et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir un service de qualité à la hauteur de vos attentes. Ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 18h, les mercredis et jeudis de 8h30 à 21h, ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 17h, chez Proxime Lapierre et Lapierre, on est là pour vous.
Ce segment sport vous est présenté par l'Eudesport, votre concessionnaire Honda et sa gamme de VTT utilitaires, sport et récréatifs. Les meilleurs au monde. Rancher, Foreman, Rubicon, choisissez votre aventure. Honda, la puissance des rêves.
Au sport, d'abord dans la Ligue nationale de hockey. Dakota Joshua a réussi un doublé et les Canucks de Vancouver ont entamé leur série contre Nashville en l'emportant 4-2 devant les Predators dimanche. Les Canucks perdaient 2-1 au moment de débuter le troisième 20. La donne a changé en 12 secondes alors que Quinn Hughes a fait mouche et que Joshua a obtenu un premier filet. L'Américain de 27 ans a ensuite complété dans un filet désert. Elias Lindholm a été l'autre buteur des Canucks. Le match numéro 2 sera présenté mardi à Vancouver. Et ce soir, dans la Ligue nationale de hockey, les Maple Leafs de Toronto affrontent les Bruins de Boston, les Islanders de New York font face aux Hurricanes de la Caroline, les Golden Knights de Vegas tenteront de vaincre les Stars de Dallas, et les Kings de Los Angeles visitent les Oilers d'Edmonton. Quelles sont vos prédictions pour la Coupe Stanley? C'est le moment d'y penser, hein, parce que l'an dernier, déjà, rappelons-nous, le modèle statistique développé par l'équipe de la science de la donnée de la presse avait prédit correctement la finale de l'Ouest, les Stars de Dallas contre les Golden Knights de Vegas, ainsi que la présence des Golden Knights en finale. Le modèle, par contre, avait donné toutefois le trophée aux Bruins de Boston, qui avait finalement été rapidement éliminé par les Panthers de la Floride, les futurs finalistes. Pour cette année, les prédictions de la presse pour le grand gagnant de la Coupe Stanley sont les Hurricanes de la Caroline qui devraient battre en finale les Oilers d'Edmonton avec pour le carré d'as les Stars contre les Oilers dans l'Ouest et les Panthers contre les Hurricanes dans l'Est. Et vous, quelle est votre prédiction? C'est le moment d'y penser. Dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, les joueuses de Montréal ont été battues par Toronto 3-2 en prolongation samedi après-midi. Et finalement, au baseball, Joe Musgrove a lancé pendant 7 manches pour une première fois depuis le 4 juillet et les Padres de San Diego ont eu raison des Blue Jays de Toronto par la marque de 6-3 hier. Voilà, c'était vos manchettes sportives.
L'événement Formule Gagnante, c'est l'événement qui vous met au volant d'une valeur gagnante Honda. Comme la Honda Civic, qualité, fiabilité, efficiente et amusante à conduire. Un habitacle rempli de caractéristiques, c'est la voiture la plus vendue au Canada Atlantique. La Civic est en location à partir de $97 par semaine, avec $0 en acompte. Ou encore, choisissez le financement spécial à l'achat à partir de 4,99%. L'événement Formule Gagnante chez l'Eudesport, votre concessionnaire Honda. Si vous magasinez pour une valeur gagnante, choisissez notre gagnante, la Honda Civic.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer les samedis de 7 à 8 heures, en rediffusion les dimanches de 17 à 18 heures sur les ondes de CFIM.
Pour bien débuter la semaine, c'est au bingo de Capomel qu'il faut se rendre ce soir, car la chance pourrait vous sourire de toutes ses dents. Oui, ce sont peut-être vos numéros que le hasard et le boulier choisiront pour remporter l'un des généreux prix totalisant 2 800 $, dont la carte pleine à 1 000 $. 2 800 $ en prix, ça peut faire beaucoup d'heureux. Serez-vous parmi eux? Pour connaître la réponse, soyez présents au bingo de Capomel à la salle communautaire de la mairie ce lundi dès 19h.
Salut, c'est Marc Dupré. On me demande souvent pourquoi l'événement camion de GMC, c'est le moment idéal pour acheter, entre autres, un Sierra 1500 2024. C'est simple. C'était l'événement barbecue. Ben, t'achèterais un barbecue. C'était l'événement adopte un chaton. T'adopterais un chaton. Pis c'était l'événement j'installe des néons en dessous de mon auto. Ben là, j'y penserais deux fois.
Pendant l'événement camion de GMC, obtenez 6 500 $ de crédit à l'achat au comptant sur certains Sierra 1500 2024 sélectionnés. Les conditions s'appliquent. Détails à offre gmc.ca.
Est plus facile à faire qu'à comprendre et tomber. Je n'ai pas le but de prendre un parti trop loin de toi. Et j'ai voulu te manquer à tes yeux fins d'exister. Et au sud de mes peines, j'ai volé loin de toi pour couvrir mon cœur d'une cire plus noire que tout l'air. Regarde, lancé à mon écart, j'ai tenté de voler loin de toi. J'ai tenté de voler loin de toi. Tu es plus facile à suivre dans la ville qui devint notre plus grande fuite. Et moi, étendu dans ce lit, je contemple ce que je t'ai donné de ma vie. Et au sud de mes peines, j'ai volé loin de toi pour couvrir mon cœur d'une cire plus noire que tous les regards lancés à mon écart. J'ai tenté de voler loin de toi. J'ai tenté de voler loin de toi.
Minutes, vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Ici François Delisle au micro qui est rejoint par Laurence Damioul. Bonjour Laurence.
Bon lundi François.
Alors Laurence, tu viens de nous parler des travaux qui se déroulent présentement à l'église Saint-Pierre de la Vernière.
Oui, bien moindrement qu'on prenait son auto depuis les dernières semaines et qu'on passait donc devant cette église classée patrimoniale, on a pu voir des ouvriers donc s'affairer sur le toit, plus particulièrement sur le versant est donc de l'église Saint-Pierre de la Vernière. C'est la poursuite des travaux liés au passage de la tempête de l'ouragan Fiona, de la tempête post-tropicale Fiona, devrais-je dire, qui, on le rappelle, avait malmené l'église de bout en bout, notamment par l'infiltration d'eau qui avait donc percé la toiture, qui s'était infiltrée, qui avait même coulé sur les planchers. Donc, on en est à la réfection de cette toiture. Donc, je me suis entretenue avec la conseillère en patrimoine immobilier et architecte Marie-Hélène Verdier afin de faire un peu une mise à jour sur l'avancement des travaux. Et on a également invité le président du conseil de fabrique de l'église Roger Cyr à se joindre à nous. Donc voici tout d'abord Marie-Hélène Verdier à qui j'ai demandé en fait de nous expliquer qu'est-ce qui se passait concrètement en ce moment du côté de l'église.
C'est vraiment ça, on est vraiment contents. Là, ils ont pu commencer fin mars environ que les ouvriers sont arrivés. Donc c'est un contrat qu'on a donné à un ferblantier professionnel donc qui vient faire dans un premier temps le versant est de la toiture qui avait été endommagée par Fiona. Fait qu'ils sont à l'œuvre, là, c'est ça, depuis quelques semaines déjà.
J'imagine qu'à un certain moment, on va passer de l'autre côté de la toiture.
Pour le moment, on se concentre vraiment sur le versant S. En fait, c'est le versant qui est la partie des travaux qui est couvert par les assurances. Pour le reste, là, on a fait des demandes d'aide financière à des programmes fédéraux, des programmes provinciaux. Ça regarde super bien. On est optimiste, mais pour le moment, on n'a rien d'attaché officiellement pour pouvoir continuer. Mais on a bon espoir que ça va se faire tout de suite après ou en tout cas dans les prochains mois.
Ces travaux-là, quand même, il me semble, sont prévus ou du moins ont été ciblés depuis un petit bout de temps. Les démarches semblent assez longues. Est-ce qu'on parle donc de la classique bureaucratie lente du côté des instances? C'est la recherche de financement qui demande plus de temps?
Bien, c'est un peu tout ça. C'est un projet quand même très complexe de par l'usage du bâtiment, de par le fait aussi qu'il est classé par le ministère de la Culture. Donc, c'est des autorisations supplémentaires qu'on doit aller chercher. C'est aussi un projet qu'on peut pas faire en plein mois de janvier dans les gros vents. Fait que le côté météo aussi qu'il a fallu s'adapter. Tout plein d'enjeux, c'est ça, oui, bureaucratique, mais aussi avec les assurances, aussi des négociations. Fait que c'est pour ça que les délais ont été longs, mais là, enfin, on peut commencer puis espérer que ça va être mené à terme le prochainement.
Et donc, on pense avec les travaux qui sont faits actuellement qu'on va définitivement mettre là, le dernier clou, justement, sur les travaux de réfection de la toiture.
On l'espère, oui.
Est-ce qu'on a une date prévue de fin des travaux?
Ben là, l'entrepreneur est là jusqu'à, je pense, c'est fin mai environ. Ben, on a espoir qu'en mai, là, que le versant S soit complété. Puis là, après ça, il va rester l'autre côté. Ça va laisser le temps au programme de subvention d'être fermé puis de voir si les réponses sont positives.
Si j'ai bonne souvenance, on doit aussi s'intéresser au plancher à un certain moment de l'église. Où est-ce qu'on en est un peu dans cet horizon de temps-là?
Oui, ben ça, c'est comme la deuxième phase, c'est le plancher, mais c'est surtout les finis intérieurs, là, des murs là, qui ont été abîmés par l'ouragan. Là, on est en plans et devis là, pour faire les travaux. Vous comprendrez qu'on a voulu s'assurer que la toiture soit bien étanche, complétée, avant de s'attaquer vraiment aux détails des finis intérieurs. Fait que là, présentement, c'est ça. C'est les plans et devis. Il va falloir aussi passer par les autorisations du ministère, aller en appel d'offres pour faire les travaux. Fait que c'est un peu la phase 2 qu'on travaille en parallèle.
Puis quand on parle de finis intérieurs, à part les planchers, qu'est-ce qu'on ajoute dans cette liste-là?
Ben c'est surtout, même avant les planchers, c'est surtout les murs, parce que toute l'eau a coulé sur les murs, donc il a fallu retirer les tapisseries qu'il y avait sur les murs, enlever l'isolant, remettre l'isolant. Donc là, ce qui reste à faire, c'est reposer la tapisserie, et repeindre tout ça, qui n'est pas une mince affaire.
Est-ce qu'on avait des tapisseries particulières qu'on espère pouvoir raccrocher? Est-ce qu'on a pu sauver quelques meubles, en quelque sorte?
Non, pas vraiment. Là, la tapisserie, on l'a envoyée à analyser au Centre de conservation du Québec pour voir c'était quoi ce type de tapisserie-là qu'il y avait. Mais c'est une tapisserie qui était peinte là, à plusieurs reprises. Fait que l'idée, c'est d'essayer de retrouver quelque chose de similaire parce qu'on a juste, grosso modo, la moitié de l'église à faire. On voudrait pas toucher à l'autre moitié.
Donc, avoir quelque chose qui concorde un peu avec tout ça.
Fait que ça peut avoir l'air simple comme ça, poser de la tapisserie et repeindre, mais c'est assez complexe de par toute la voûte puis les moulures qu'il y a à ajuster dans tout ça. Fait que c'est ça le gros projet. Puis effectivement, oui, le revêtement de plancher qu'on aimerait changer, là, qui a été beaucoup abîmé avec l'eau aussi.
Est-ce que ça prend un entrepreneur ou des ouvriers spécialisés justement pour refaire la tapisserie à l'intérieur de cette église?
C'est une très bonne question. C'est sûr, la tapisserie, ça se pose plus beaucoup là, ces temps-ci. Là. J'ai pas réfléchi plus qu'il faut à la question. L'appel d'offres nous dira là, qu'est-ce qu'il y en a, qui est intéressé à soumissionner à ce projet-là.
Et donc, la phase 2 des travaux, on espère pouvoir la réaliser en 2025, en 2026. Si on est à l'étape des plans et de vie, ça nous amène où? Ça nous amène quand, en fait?
C'est une bonne question aussi. Le plan des devis, après, c'est ça, il y a la période d'appel d'offres qui est quelques mois, un mois. Après ça, d'obtenir les autorisations du ministère de la Culture, c'est toujours aussi en termes de mois qu'on parle. Mais disons que si on est optimiste, peut-être à l'automne ou à l'hiver prochain, c'est des travaux qui peuvent se faire en tout temps dans l'année. Là. On n'a pas besoin d'attendre une météo parfaite. Fait que peut-être qu'en début 2025, ça pourrait être amorcé ou complété, là, je pense bien.
Donc, phase 2 à venir également. Est-ce qu'on a une phase 3 de travaux ou est-ce qu'on pense avoir terminé de régler finalement Fiona à l'église de la Vernière après tout ça?
Ben pour Fiona, je pense que ce serait pas mal ça, mais sinon, pour les demandes d'aide financière, on a aussi demandé de l'aide là, pour finir le projet de peinture, c'est-à-dire finir la flèche du clocher puis la petite toiture de la sacristie en arrière qui restait à faire. Fait que tout ça, là, c'est en demande d'aide, puis on attend des nouvelles aussi pour pouvoir dire que la toiture est vraiment complétée à 100%. On reste optimiste.
Et du côté de la fabrique, M. Cyr, comment on se sent devant tout ça?
Bien, je pense qu'on se sent confiant. En tout cas, les derniers développements nous ont montré quand même que ça va relativement bien. Moi, je suis là depuis le mois de janvier, donc je peux pas dire l'avant, mais depuis janvier, ça va bien.
Est-ce qu'à vos yeux, il en reste moins qu'il en restait? Est-ce qu'il en reste autant qu'il en restait?
Bien, par rapport à Fiona, il en reste autant parce qu'il reste le versant Ouest Affaires. Et l'intérieur n'est pas fait, mais c'est comme Marie-Hélène dit, l'intérieur, ça va se faire cet hiver, n'importe quand, c'est pas un problème. L'autre, ça va aller sur certains l'été prochain ou quelque chose comme ça.
Quand j'avais parlé avec Lynn Bouffard la dernière fois, justement, pour une mise à jour des travaux, on parlait de coûts estimés qui tournaient autour de 3 millions de dollars en tout et pour tout. Est-ce que la facture tourne autour de ce chiffre-là encore aujourd'hui? Est-ce que ce chiffre-là est encore à jour?
Bonne question. En fait, peut-être que si on calcule tous les différents travaux, peut-être qu'on arrive là. Là, pour le moment, pour la toiture, on dépasse un peu le million là pour les travaux de ferblanterie. Après ça, il y aura les travaux pour la flèche du clocher, puis les travaux intérieurs qu'on n'a toujours pas les coûts. Mais c'est sûr que tout le monde le sait, ça grimpe vite les coûts. Là, fait que effectivement.
On parle en millions de dollars.
Ouais,
là,
tout à fait.
Nécessairement.
Tout à fait.
On avait confirmé du financement. Comme on le disait, par les assurances, aussi par le ministère de la Culture et Communication. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres soutiens qu'on a pu confirmer depuis?
Confirmer, non. Comme je vous dis, c'est ça, les demandes d'aide financière ont été faites tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. On est optimiste, puis on attend des bonnes nouvelles incessamment.
On se croise les doigts ici, comme M. Cyr vient de le faire au micro. D'ailleurs, M. Cyr, ça fait pas longtemps que vous êtes en poste. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intégrer à la fabrique, en fait? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette forme de bénévolat-là?
Ben, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'ai déjà été président de la fabrique pour 6 ans, là, plusieurs années.
OK.
Donc, je savais un peu c'était quoi. Ben, disons qu'on m'a pas tordu le bras, mais finalement, j'ai accepté. Ça demande beaucoup de temps, finalement. Ça demande assez de temps, mais en plus, il y a été pour un bout de temps avant, c'était plus difficile. Ça fait que là, quand vous m'avez pris ça, avec d'autres qui est là maintenant, mais ça va bien, moi, quand
même. OK, il y avait une petite situation de conflit, là, si je comprends, la fabrique auparavant.
Pas vraiment, parce que j'étais pas là, mais on a trouvé de faire du rattrapage au niveau des livres et tout ça.
Puis là, est-ce que le conseil de fabrique est complet? Est-ce que toute l'équipe est là?
Il est complet avec une nouvelle agente administrative. Ça va très bien. Ça fait qu'espérant que ça va continuer dans ce sens-là. Puis, de toute façon, les gens qui sont là maintenant sont vraiment impliqués, puis ça va très bien.
Faut dire aussi que M. Cyr, il rentre dans un poste en même temps qu'un chantier très, très complexe, là. Fait que c'est sûr que ça l'occupe beaucoup.
Oui, qui comprend plusieurs instances, comme on le disait, toutes des vérifications auprès du palier provincial. C'est un moyen casse-tête, là, tout ça.
C'est ça.
Oui, mais j'en ai déjà eu d'autres, des casse-têtes.
Est-ce que la fabrique a une vision particulière pour développer l'Église, pour la redynamiser? On le sait que c'est des questions qui se posent beaucoup dans les églises, les lieux religieux au Québec en ce moment. Qu'est-ce qu'on en fait de ces endroits-là? Est-ce que la fabrique s'est posée un petit peu cette question-là?
Ben moi, depuis 2 mois, j'ai pas eu le temps de me poser cette question-là. Mais on peut dire que oui, c'est quand même difficile. Tu sais, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi dans l'Église. On dit qu'on peut à peine déplacer une statue. Ben, nous autres, on ne fait pas partie de réflexion maintenant, parce que maintenant, c'est les travaux qu'on a à faire pour les prochaines années. C'est ça qui est notre priorité.
Okay, on garde le cap sur les travaux, puis on verra par après.
Absolument, oui. Je veux profiter de cette occasion-là que j'ai pour remercier finalement tous les bénévoles qui travaillent pour la paroisse Saint-Pierre. Hier se terminait la semaine d'action bénévole. C'est pourquoi j'aimerais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour remercier tous les bénévoles qui donnent leur temps dans la paroisse Saint-Pierre-de-Vernière, que ce soit au niveau des célébrations ou autres, ainsi que nos deux pasteurs, le Papyrus et Magloire, et tous les paroissiens qui participent à la vie de notre Église. C'est vital pour une communauté chrétienne qu'on ait des gens qui y participent. Merci également au comité de financement en place qui travaille à organiser par diverses activités des moyens de financement pour nous permettre de réaliser les travaux nécessaires sur l'Église et au presbytère. Sans oublier les marguilliers du conseil de fabrique pour leur engagement. Puis en terminant, un grand merci à Marie-Hélène qui est à côté de moi pour nous aider dans la préparation et le suivi des dossiers MacVeur.
Bien, je pense qu'on n'a pas le choix de conclure l'entrevue ainsi. Roger Cyr, Marie-Hélène Verdier, merci beaucoup d'être passée en studio aujourd'hui.
Merci. Merci à toi.
Ce mardi à Dubout-les-Îles, chronique comportement canin avec Rose Prou. On reçoit Karine Deraspe et Laurence Arsenault-Forêt du Cégep. On parle d'atelier cultiver le calme en soi. Et on retrouve les collègues et amis Jean Chevary, Véronique Harvey et Raphaël Lapierre. Dès 6h, le rendez-vous pour bien vous réveiller. C'est sur les ondes du son de la mer à l'émission Dubout-les-Îles.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'Épreuve des faits. Ici François Delisle, qui est maintenant rejoint en studio par Raphaël Lapierre. Bonjour Raphaël.
Bonjour François.
Alors Raphaël, tu viens nous parler environnement parce que le comité ZIP des îles a rendu quelque chose de disponible à la communauté.
Oui, il s'agit François d'un herbier des plantes des milieux humides, hydriques et marins des îles. Donc c'est un projet qui en était déjà à une deuxième phase et là que ça a amené justement à la publication, si on veut, des résultats là, pour vous résumer très brièvement là, pendant deux années presque complètes là, les équipes du comité ZIP ont justement fait l'inventaire des différentes plantes, ont recueilli ces plantes-là pour les mettre en forme dans un herbier. Comment on réalise ce genre d'outil-là? À quoi ça peut servir? Ben, j'ai pu en discuter avec Catherine Daly-Bélanger qui est chargée de projet au comité ZIP. Je commence par lui demander justement de nous résumer la démarche et ce que c'est un herbier et ensuite on entre là, un peu plus dans le vif du sujet de comment ça s'est déroulé là, tous ces épisodes-là de collecte et à quoi ça va nous mener comme outil pour le futur.
Dans le fond, faire un herbier, pour nous, ça répondait un peu à un besoin de, sur le territoire des îles de la Madeleine, on a beaucoup d'espèces qui sont communes avec le Québec, mais aussi avec les maritimes. Fait qu'il n'y a pas de guide d'identification vraiment qui est vraiment propre au territoire ou qui se fait bien pour le territoire. Fait qu'en fait, c'est d'où l'idée de un peu répertorier qu'est-ce qu'on a comme plantes dans nos milieux humides, dans nos bandes riveraines de ruisseaux, dans nos ruisseaux, puis des algues en milieu marin, pour un peu faire un topo puis dresser un portrait de qu'est-ce qu'on a sur l'archipel. Fait que c'est un peu venu de ça. Puis après ça, comment on procède pour faire un herbier, ben là c'est vraiment là d'aller récolter les plantes donc dans l'entièreté. Donc on va vraiment récolter les racines puis des plantes, faut qu'ils soient en fleurs ou en fruits pour faciliter l'identification. Après ça on va venir les presser, on va venir les coller sur des planches d'herbier là, c'est des formats standards là, 11 par 17 sur du papier sans acide là, qui fait que ça interfère pas avec la plante là, pour pas la détériorer. Puis ensuite on les a identifiés. Puis, on les a photographiés puis mis en ligne là, sur un site Internet qui est possible de consulter avec des informations comme les caractéristiques qui permettent de reconnaître toutes ces plantes-là, de les identifier, puis aussi de déterminer comment les séparer d'espèces qui peuvent leur ressembler.
Donc, un herbier, ça se trouve être un répertoire, si on veut, des espèces, là, finalement. Mais comment on le définirait simplement, un herbier, puis à quoi ça sert?
Mmh. Bien, il y a beaucoup d'herbiers qui existent dans le monde, dont notamment des herbiers avec qui on a fait affaire, justement, en partenariat pour ce projet-là, là, dont l'herbier Marie-Victorin à Montréal, puis le Musée canadien de la nature à Ottawa, qui nous ont beaucoup aidés pour des identifications. Puis, en fait, ces herbiers-là, ils vont servir surtout à vocation scientifique. Donc, c'est comme un peu un archivage des espèces qu'on trouve sur différents territoires avec des positions de où ils ont été récoltés, puis tout ça. Puis après ça, on peut faire des analyses génétiques sur ces plantes-là. Donc, ça peut aider beaucoup pour la science, mais à notre échelle, sur le territoire, c'était beaucoup de faire un peu un guide d'identification qui était propre à l'archipel, qui peut être utilisé autant par les organismes en environnement, par la municipalité, pour tout ce qui est délimitation de milieux humides, et caractérisation aussi, mais aussi pour des citoyens qui voudraient savoir un peu qu'est-ce qu'ils retrouvent sur leur cours, sur leur terrain, puis tout ça, s'ils ont des milieux humides à proximité, puis qui s'intéressent un petit peu à la botanique.
Est-ce qu'à travers la démarche, on a répertorié quand même pas mal tout ce qui se trouve dans les milieux humides hydriques aux îles? Est-ce qu'on a réussi à faire quand même un inventaire, disons, large? Puis est-ce que même il pourrait s'ajouter des éléments? Est-ce qu'on s'est intéressé vraiment juste aux plantes des milieux humides hydriques?
Dans le fond, au total, on a eu deux saisons de récolte. Donc, ça a commencé en 2022, ce projet-là. Puis dans les deux étés, automne, printemps de récolte qu'on a faites, on a récolté au total 227 plantes de milieux humides, de ruisseaux, de bandes riveraines et tout ça, puis 58 algues. Donc, c'est sûr que le portrait n'est pas dressé au complet. C'est sûr qu'il y a des espèces qu'on n'a pas récoltées, mais ça dresse quand même un bon topo un peu de ce qu'on a. Puis, c'est sûr qu'après ça, il y a du travail à faire pour bonifier tout ça, mais c'est un travail qu'on va continuer là, dans les prochaines années au cours de nos autres projets. Là, par exemple, là, on travaille beaucoup dans les milieux humides, fait que si on rencontre des espèces qu'on n'avait pas, ben, on va les récolter puis les intégrer par la suite à l'herbier qu'on a déjà fait là. Mais c'est, au moins, il y a un bon travail de fait déjà.
Ça se comporte comment, justement, avec peut-être d'autres régions du Québec, ou tu sais, est-ce qu'on a une diversité qui est peut-être plus élevée, justement, de par notre situation géographique un peu particulière, ou est-ce qu'on est dans des chiffres qui ressemblent pas mal à n'importe quel autre territoire en termes, justement, là, de biodiversité, finalement?
Je pense que c'est quand même difficile à comparer. Uh-huh. Je pense qu'aux îles, c'est comme spécial parce que, justement, on est comme un peu en différents territoires, vu qu'on est un peu isolé au milieu un peu du Golfe Saint-Laurent, puis tout ça. J'aurais de la misère à comparer avec d'autres endroits en termes de biodiversité. C'est sûr qu'on a un climat un peu plus nordique, fait qu'habituellement, dans les climats plus nordiques ou plus ardus avec le vent, puis tout ça, il y a moins d'espèces qui sont acclimatées ou qui peuvent bien pousser. Mais on a quand même une diversité incroyable de plantes. Puis ça, les herbiers, justement, l'herbier Marie-Victorin, puis ça, avec qui j'ai beaucoup travaillé, ils étaient impressionnés là, par tout ce qu'on leur avait récolté. Puis tous ces spécimens-là qu'on leur a envoyés pour l'identification, eux, ils les intègrent à leur collection. Fait que ça vient bonifier aussi leur collection pour les îles de la Madeleine. Puis ça, c'est quand même un petit plus. Là.
Vous étiez une équipe de combien de personnes à peu près à s'être occupée de justement aller récolter et de, bon, toute la mise en page quasiment, en fait, finalement, après ça, de bon s'assurer de justement, comme tu disais, sur le papier et tout. Ça représente quoi comme travail, tu sais, finalement, en termes de nombre de personnes puis de temps qu'on y met?
Ça a été beaucoup de temps. C'est sûr que c'est long, là. Tu sais, juste pour la récolte, on était deux personnes dans fond, tout le temps pour récolter. Mais après ça, il y a plein de gens qui ont gravité autour de l'herbier, que ce soit pour aller chercher, dans fond, dans différents ouvrages de référence, un peu les caractéristiques de chacune des plantes. Donc, on a eu beaucoup de stagiaires au comité d'équipe qui ont travaillé là-dessus aussi pour aider à coller. Donc, il y a eu des techniciens, il y a eu d'autres chargés de projet. Donc, on est quand même presque beaucoup de monde de l'équipe ont touché là, à ce projet-là de près ou de loin, puis a mis un peu la main à la pâte pour réaliser tout ça.
Est-ce qu'on a eu des surprises? T'sais, est-ce qu'il y a peut-être des au niveau, encore une fois, de la diversité puis de la variété de plantes qu'on peut avoir trouvées, est-ce qu'on a pas mal identifié, en fait, des choses qu'on savait qui existaient, ou est-ce qu'il y a eu des éléments qu'on se disait, OK, on savait pas qu'il y avait de ça aux îles, ou tu sais, est-ce qu'il y a eu des surprises, finalement, dans votre démarche?
Ben, mettons, à ma connaissance, il y avait des espèces que je savais pas qu'on avait. Fait que ça, c'était super intéressant. Mais clairement, tu sais, je connais pas non plus toutes les espèces qu'on a aux îles. Fait que c'est sûr que c'est un travail, là, que je pense qu'on pourrait chercher longtemps, là, gratter dans des fonds, dans le fond des jardins pour trouver des choses, dans le fond des milieux humides. Mais non, c'est super intéressant ce qu'on a découvert, là. Ouais. Mm-hmm.
Et bon, on en parlait un petit peu précédemment, mais c'est un projet donc qui n'arrête pas à cette étape-là. Il y a d'autres étapes à venir.
Oui, en fait, on a reçu un nouveau financement dans le fond pour une troisième phase, là, si on veut, une troisième année là, pour l'herbier. Fait que ça va nous aider à venir bonifier la collection qu'on a déjà. Fait que là, on a prévu plus de sorties en mer pour récolter plus d'algues, un volet qu'on a plus difficilement, en tout cas qu'on a peut-être un petit peu moins fait dans les dernières années. Puis donc pour venir bonifier ça, puis aussi on va faire des activités où on va amener des gens dans des milieux humides. semaines. Donc, ça va être ouvert un peu à tous, là, à toute la population, pour si jamais il y a des gens, ça va être sur inscription, s'il y a des gens qui ça leur tente de venir récolter des plantes avec nous, puis d'apprendre un peu comment faire un herbier qui peut se faire à la maison. Là. Donc, vraiment passer par toutes les étapes là, jusqu'à l'identification et puis tout ça, pour nous aider à soit faire l'herbier ou repartir avec des spécimens, puis apprendre la technique dans le fond. Puis l'herbier, on veut pas qu'il reste dans le fond cloîtré dans notre sous-sol. Là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire des petites expositions. Fait qu'il va y avoir des petites expositions temporaires qui vont se faire là, à différents endroits stratégiques aux îles. La programmation n'est pas encore toute peaufinée, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça va sortir. Puis vous risquez de voir un peu là, le travail fini un peu partout aux îles.
Puis en terminant, donc l'outil, pour le moment, il est disponible principalement en ligne. Il a été numérisé, donc l'herbier. Est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'on a accès vraiment directement à l'herbier, les planches, si on veut? Est-ce que vous les avez encore au comité ZIP? On peut aller le consulter? Comment ça peut fonctionner là, pour consulter l'outil finalement?
Oui, mais dans le fond, effectivement, là, il a tout été numérisé et puis il est tout en ligne. Mais il y a moyen là, de venir le consulter sur place, là, juste de nous écrire ou de nous appeler. Puis ça va nous faire plaisir là, de montrer un peu l'herbier et puis tout ça. Ça peut servir à des gens là, dans différents contextes, là, que ce soit à vocation plus scientifique ou artistique. Là, il n'y a aucun problème.
Pédagogique,
absolument, oui.
Catherine Daly-Bélanger, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci, bonne journée.
Hey, ma sphère est là-bas.
J'ai oublié de remplir mon papier pour l'indice de la semaine pour le concours plein gaz au dépanneur du village. Là.
Ben, t'es pas obligé de virer de bord.
Ben, si je vais être éligible au concours puis gagner 100 pièces de gaz, j'ai pas le choix de remplir mon papier.
Mais t'as plus besoin de papier, c'est full secure à ça. Tu peux remplir tes informations sur cfim.ca, dans ton char, dans ton camion, chez vous, sur ton 4 roues, skidoo, n'importe où.
Fais comme ils disent, y a pas de doute, gaz au bout.
Vous trouvez tout ce que vous cherchez, même des indices pour vous faire gagner 100$ au concours plein gaz. Dépanneur du village, au cœur de Capomeul. Tirage à tous les vendredis 16h.
Le Gala des Éloises de la Chambre de commerce des îles de la Madeleine est de retour pour son édition 2024 le 27 avril prochain au Centre récréatif de l'Étang du Nord. Enfilez votre plus belle tenue chic and glamour puisqu'une soirée haute en couleurs vous attend. Cocktail réseautage, repas gourmet, ambiance musicale, invités d'honneur, remise des trophées Éloises et performance du groupe Bordas. La Chambre de commerce des îles vous a préparé toute une soirée. Procurez-vous vos billets dès maintenant en visitant notre page Facebook de la Chambre de commerce ou en communiquant avec nous au 418-986-4111.
Ici François Delisle au micro, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Pour ce dernier segment, on parle politique québécoise et en fait un peu politique canadienne aussi. C'est qu'à sa première apparition publique depuis son exclusion du caucus de la coalition Avenir Québec, l'ex-whip du gouvernement Éric Lefebvre a défendu sa décision de se lancer avec les conservateurs de Pierre Poilievre en affirmant que c'était sa famille politique depuis deux décennies. Il assure également que ses commettants vont le suivre lors des prochaines élections fédérales. Faut rappeler hein, que Éric Lefebvre a récemment fait parler de lui dans la presse en raison du fait qu'il quitte le parti au pouvoir au Québec, avec un rôle quand même important, celui de whip parlementaire, pour quitter et se lancer dans les prochaines élections fédérales. Il dit qu'il est un conservateur fédéral depuis longtemps. Et il a tenu à rappeler qu'il a été candidat pour le Parti conservateur du Canada en 2008. Monsieur Lefebvre était alors arrivé en deuxième place dans la circonscription de Richmond-Arthabasca, près de 9000 voix derrière le candidat élu, le bloquiste André Bellavance. Il a ensuite travaillé pour le ministre conservateur Denis Lebel. Ce dernier était d'ailleurs présent à Victoriaville pour donner son appui à son ami. Selon l'ancien ministre conservateur, Éric Lefebvre, c'est quelqu'un qui rencontre le monde, qui fait des accolades à tout le monde et qui connaît tout le monde. Monsieur Lefebvre a été élu pour une première fois avec la CAQ dans la circonscription provinciale d'Arthabasca en 2016 lors d'une élection partielle. Il a ensuite été réélu dans le même comté en 2018 et en 2022. L'ex-caquiste qui siège maintenant comme indépendant a expliqué avoir reçu des appels au cours des derniers mois. Il y a des députés conservateurs qui lui ont donné un coup de fil pour voir son intérêt, dit-il, et il a eu une rencontre avec M. Monsieur Poilievre. Il dit avoir eu le goût de mettre l'épaule à la roue pour changer le gouvernement de Justin Trudeau, qui présentement utilise la carte de crédit de nos enfants sans fin, selon Monsieur Lefebvre. Il n'a pas tardé à enfiler un t-shirt sur lequel on pouvait lire le nom de son nouveau chef. Or, jusqu'à tout récemment, l'ancien whip caquiste faisait partie du gouvernement qui ne se gênait pas de faire des déficits. Le dernier budget du ministre des Finances, Éric Girard, prévoyait un déficit de 11 milliards de dollars. Il y a des choix qui ont été faits du côté du gouvernement provincial et il ne sera pas là pour jouer à la belle-mère, a-t-il dit, en refusant de s'étendre sur le sujet. Questionné cependant à savoir comment il justifiait sa décision auprès de ses électeurs, Éric Lefebvre cite des micro-trottoirs réalisés au cours des derniers jours. Les gens ici en région souvent votent pour l'homme, alors les gens sont prêts à le suivre, a-t-il assuré, ajoutant qu'il comptait travailler très très fort. Deux électeurs de la circonscription d'Éric Lefebvre rencontrés lors du rassemblement conservateur ne voyaient pas de problème à ce que leur député fasse le saut vers le fédéral. Selon eux, comme il était conservateur avant la CAQ, c'est un pas de côté qu'il avait fait. La politique, c'est comme ça, a dit Adriano Amaral. Il y a une porte qui s'ouvrait pour avoir une place meilleure et pour apporter du bien à nous, les Québécois, a pour sa part affirmé Jean-Philippe Savard-Brunel, ajoutant qu'il allait appuyer Pierre Poilievre lors des prochaines élections fédérales. Quelques centaines de conservateurs étaient rassemblés dimanche au centre des congrès de Victoriaville et le chef Pierre Poilievre a annoncé qu'Éric Lefebvre serait candidat pour son parti dans la circonscription Richmond-Athabasca lors du prochain scrutin fédéral. M. Pierre Poilievre a lancé à ses militants qu'ils auraient en M. Éric Lefebvre un candidat extraordinaire qui fait partie de leur équipe conservatrice du gros bon sens. Durant son discours, le chef conservateur a martelé ses thèmes habituels vêtu d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire son désormais célèbre slogan « Le gros bon sens ». Il a critiqué les déficits des libéraux, promis de couper dans la bureaucratie et de combattre la criminalité. Pour le moment, c'est le député indépendant Alain Reyes qui est l'actuel député de la circonscription Richmond-Athabasca. M. Reyes a quitté le caucus du Parti conservateur du Canada tout juste après l'élection de Pierre Poilievre à la tête du parti. Il avait appuyé Jean Charest dans la chefferie. Alain Reyes a déjà inquiété qu'il ne comptait pas se représenter. Éric Lefebvre est le deuxième élu caquiste à quitter le caucus depuis le dernier scrutin provincial de 2022. La députée de Jean Talon à Québec, Joëlle Boutin, a démissionné en juillet dernier, arguant des considérations familiales. Puisque Mme Boutin a laissé son siège vacant, une élection partielle a dû être tenue. La CAQ a perdu la circonscription de Jean Talon au profit du Parti québécois. Comme M. Lefebvre est devenu député indépendant, il n'y aura pas d'élection complémentaire pour le remplacer pour l'instant. Toutefois, l'article 17 de la loi sur l'Assemblée nationale du Québec prévoit que le siège d'un député devient vacant de facto s'il est nommé au Sénat canadien ou il est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province. Comme le scrutin fédéral se déroulera avant les prochaines élections provinciales, il y aura vraisemblablement une élection partielle pour faire élire un remplaçant à M. Lefebvre dans Athabasca. Alors que la CAQ bat de l'aile dans les sondages depuis plusieurs mois, les conservateurs de Pierre Poilievre caracolent dans les intentions de vote. Ils accusent toutefois un retard au Québec, où ils sont en troisième place derrière le Bloc québécois et les libéraux de Justin Trudeau, selon l'agrégateur de sondages 338 de Canada. C'est donc à surveiller comment les transfuges passeront peut-être du parti caquiste en déroute vers les conservateurs qui ont le vent dans les voiles au fédéral dans les prochains mois. À suivre, ce n'est peut-être pas le dernier transfuge que l'on voit. Tout ça donne un peu un parfum préélectoral, même si on est encore loin de déclenchement d'élections au provincial et au fédéral.
Marquez bien votre calendrier chaque dernier jeudi du mois, car c'est le moment où la Légion canadienne double le gros lot de son bingo hebdomadaire afin de vous faire gagner 2000 $. Donc ce jeudi soir, 21h, n'oubliez pas d'ouvrir votre télé au canal 2 ou 102 de Derry propulsé par Cogeco afin d'être prêt pour le bingo de la Légion diffusé en simultané à CFIM. Et lorsque vous aurez carte pleine, en plus de crier bingo, appelez le 418-969-1340. C'est donc un rendez-vous ce jeudi. jeudi soir, 21h, au canal de télévision 2 et 102 pour courir la chance de gagner 2000$ au bingo de la Légion canadienne, aussi diffusé à CFIM.
C'est ainsi que se conclut cette édition de l'émission L'épreuve des faits. Je remercie les journalistes Laurence Damioul et Raphaël Lapierre ainsi que leurs invités pour leur participation à l'émission ce midi. Je vous invite également à syntoniser CFIM demain midi puisque nous vous présenterons une table ronde sur la redevance touristique entrant en vigueur le 1er mai. On va discuter autour de la passe Archipel avec Antonin Valiquette de la municipalité des Îles, France Groux et Michel Bonato de l'association touristique régionale et Dominique Lapointe de l'UQAM. C'est un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez des interrogations ou des préoccupations par rapport à la passe Archipel. Nous vous invitons d'ailleurs toujours à nous écrire au info@commercialcfm.ca si vous avez des questions que vous aimeriez voir posées aux invités. Les questions demeureront anonymes et elles nous permettront de répondre à vos préoccupations. Pour le moment, je vous invite à demeurer à l'écoute de CFM pour l'émission Acadie de nos cœurs dans un instant et dès 14h, l'émission De long en large animée par Pierre Aucoin. Et je vous dis à demain.
Au début, qui aurait cru que j'aurais fait cavalier seul? J'avais de la gueule, ah ouais. Avec mon cheval, je n'ai pas fait de mal. J'ai sauté par-dessus les pions qui ont marché sur tous les ponts. Un petit pas à la fois, ils m'ont dit dans les bras.
Une fois arrivé à la côte, on va se tasser dans les pelotons.
Mais pour vous rendre de l'autre bord, ça va prendre bien des efforts. Oh, ça m'épate, moi la guerre, faut se battre avec nos frères. Je sais pas à quoi ça sert, ça ne date pas d'hier. Qu'on subit la défaite, mais maudit, j'aime les échecs. Partout. Oh, ça m'épate, moi la guerre. Faut se battre avec nos frères. Je sais pas à quoi ça sert. Ça ne date pas d'hier. On subit la défaite, mais maudit, j'aime les échecs. Yeah! L'autre fois, j'ai vu le roi rocker avec sa tour. Faire du rock comme il se doit pour une tournée de quelques jours. Mais la reine s'ennuyait. Et quelques semaines après, voulu se rendre, car elle s'en fout de se faire prendre par le fou.
Mais on l'a jamais revu.
Tout le monde la savait disparue. Oh, ça m'épate, moi la guerre. Faut se battre avec nos frères. Je sais pas à quoi ça sert. Ça ne date pas d'hier. Qu'on subit la défaite, mais maudit que j'aime les échecs. Le roi pensait que sa game était finie. Mais voilà qu'un pion arrive à destination. Et en pleine transformation,
la reine revient contre le bon.
Et plus jamais sur la map on a entendu échec des maths.
Avis à la population des îles. Ce mardi midi, à l'émission L'épreuve des faits sur les ondes de CFIM, se tiendra une table ronde au sujet de la redevance touristique qui entrera en vigueur le 1er mai prochain. Vous avez des questions sur la passe Archipel, des préoccupations ou des interrogations? Communiquez avec nous au info@commercialcfm.ca et nous poserons vos questions aux intervenants présents. Autour de la table pour faire le tour du sujet, le maire des îles, Antonin Valiquette, le professeur au département d'études urbaines et touristiques, Dominique Lapointe, et la présidente de l'Association touristique régionale, France Groux. C'est un rendez-vous ce mardi 23 avril dès midi sur les ondes de CFIM.
Comme la tradition le veut, l'ouverture de la pêche est soulignée en grand aux îles pour encourager et saluer le courage et l'accomplissement de tous les travailleurs et travailleuses de la mer. CFIM vous propose de profiter de l'effervescence de la mise à l'eau pour mettre de l'avant vos produits et vos services. Contactez notre équipe publicitaire par téléphone au 418-986-5233 ou par courriel au pub@commercialcfm.ca pour découvrir nos forfaits et créer votre publicité de mise à l'eau. Faites vite, vous ne voulez assurément pas manquer le bateau.
L'histoire est un voyage entre les forêts. Des bêtes naïves au cœur du paysage. silence.
Vous syntonisez le 92.7 MF, CFIM, la radio des insulaires.
CFIM vous présente Acadie de nos cœurs, l'émission par